Vous écoutez
RMC.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et Patrick, ce matin, on va parler de la lumière et des plantes. Comment, par exemple, les plantes utilisent-elles la lumière? À quoi ça leur sert, etc. Pour commencer, peut-être, comment peut-on définir? On va faire un petit peu de science, là, Patrick. Très léger, hein, bien
oui,
sûr.
On va pas aller très très loin parce que la définition.
Comment définir la lumière?
La lumière est quand même extrêmement complexe. En fait, c'est une onde électromagnétique et qui produit une sensation visuelle. C'est-à-dire que dans le noir, quand il y a un ray de lumière, une torche par exemple, qui s'allume, vous la voyez.
Ça éclaire.
Mais en réalité, comme c'est une onde, ce n'est pas palpable.
Ben oui.
Et c'est une onde qui est constituée de différents spectres, si l'on veut, hein, avec des. Comme quand vous regardez l'arc-en-ciel, en fait. De quoi est composée la lumière blanche? Ben, la lumière qui vous apparaît blanche, en fait, c'est l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, il y a des couleurs de lumière que l'on ne voit pas, nous, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, mais certains animaux, et notamment les insectes, le voient très, très bien. Donc ça aussi, on peut qualifier de lumière. Et puis, bien sûr, la lumière est un transporteur d'énergie.
Et oui.
Avec c'est... des particules, notamment qu'on appelle des photons, et que l'on ne voit pas non plus. Et on parlait avant le début de l'émission du CERN, donc de l'accélérateur de particules. Eh bien, c'est dans ce genre de zone scientifique que l'on étudie les composants de la lumière, et ça va très, 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 très.
Alors, on peut imaginer l'importance de la lumière dans le jardin, et dans le monde végétal, hein, d'une manière générale, Patrick.
Et dans le monde vivant.
Et dans le monde vivant, bien sûr.
Parce que sans lumière, on ne serait pas capable de vivre, hein, puisque en fait, la lumière est la première des sources de l'énergie. En fait, qu'est-ce que fait la lumière essentiellement pour nous? Elle transporte l'énergie du soleil, jusqu'à nous. Et cette lumière solaire permet aux plantes de synthétiser de la matière organique en utilisant cette énergie lumineuse. Donc ça s'appelle la photosynthèse.
Mais comment, Patrick, les plantes captent-elles la lumière, vu qu'elles n'ont pas d'yeux? Sans jeu de mots, bien sûr.
Oui, non, mais c'est vrai. On se dit, elles n'ont pas d'organes spécifiquement dédiés à la captation de la lumière. Alors, il faut se rappeler ce que l'on avait évoqué ensemble il y a quelques mois, lorsqu'on avait parlé de l'intelligence des plantes. Les plantes, aujourd'hui, sont connues comme étant des récepteurs globaux. À l'inverse de nous, parce que nous, on a les yeux pour voir, on a le nez pour sentir, on a la bouche pour goûter, on a les oreilles pour écouter. Mais les plantes, en fait, elles ont des oreilles, des yeux, des bouches sur l'ensemble de leur corps. Et pour ce qui concerne donc la captation de la lumière, elles ont des vrais photorécepteurs qu'on appelle des phytochromes et qui sont constitués principalement par des protéines et puis de ce qu'on appelle des chromophores. Ce sont des ensembles d'atomes qui ont la capacité de détecter l'énergie lumineuse et de l'absorber. Et donc, en fait, si la plante est capable de percevoir cette lumière, c'est parce que dans ses cellules, elle a des organites. Alors, un organite, c'est quoi? C'est un élément qui, au départ, n'est pas constitutif de la cellule, mais qui s'est greffé, entre guillemets, au fil de l'évolution dans la plante. Et ce qu'on appelle les chloroplastes, ce sont comme des espèces de petits grains verts et qui sont constitués aussi de chlorophylle et qui permet donc d'être sensible aux différentes ondes du spectre lumineux. Donc, ils captent la lumière.
Alors, outre la photosynthèse, quel rôle joue la lumière chez les plantes?
Alors, pratiquement la même chose que chez nous. Déjà, le réglage de l'horloge interne, avec les rythmes circadiens, c'est-à-dire que la plante, elle va faire comme nous, elle se réveille lorsque la lumière arrive avec le jour, et elle va s'endormir avec la nuit, et ça, c'est important pour son équilibre. La lumière sert à la germination de certaines graines. Contrairement à ce que l'on pense, toutes les graines ne germent pas à l'obscurité. Il y en a qui ont besoin de voir la lumière. L'induction florale, on en parle suffisamment. Si vous mettez une plante trop à l'ombre, généralement, elle fleurit pas. On vous dit toujours, par exemple, de faire vos légumes au soleil. Bah, parce qu'il y en a besoin, non seulement pour faire mûrir les fruits, pour leur donner aussi la quantité de sucre, la saveur, etc. Mais également, simplement pour commencer le processus en faisant éclore les fleurs. Les plantes aussi sont capables de mouvement par rapport à la lumière. On connaît le tournesol qui
tourne... qui suit.
Non, il fait l'inverse, lui. tournesol. Il se tourne par rapport au soleil.
Il se met toujours à dos.
Voilà, il se met dos au soleil, mais effectivement, il va avoir un mouvement par rapport au fait que la Terre tourne autour du soleil et sur elle-même, et ce qui fait que la plante doit être toujours derrière. Alors, on a aussi des choses extrêmement importantes qui vont beaucoup plaire à notre docteur Rakia, c'est que la lumière permet la synthèse des anthocyanes, des flavones, des protéines, donc des éléments antioxydants qui sont extrêmement importants, non seulement pour notre santé, mais aussi pour celle des plantes.
Alors, d'après ce que vous nous dites, Patrice, si j'ai bien compris, il est donc impossible pour une plante de vivre sans lumière ?
Oui, d'être totalement dans le noir, ça c'est pas possible, c'est la même chose pour nous, pour la plupart des êtres vivants. On a quand même découvert dans des grottes profondes des animaux, par exemple, qui vivaient, mais ils sécrétaient eux-mêmes leur propre lumière. On voit aussi dans les abysses, lorsque vous descendez très profond dans la mer, où là, le spectre du rayonnement solaire est complètement absorbé, donc on est dans le noir absolu, eh bien, il y a des êtres vivants, mais qui sont aussi capables de générer, par fluorescence, généralement, une lumière. Alors, il faut savoir que la plante est capable d'absorber 90% de la lumière qu'elle reçoit. Elle en réfléchit une partie, 5%, et puis le reste, ça la traverse, puisque les photons, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On est traversé en permanence par les photons, les neutrinos, etc. La lumière nous pénètre, nous traverse.
Tiens, d'ailleurs, vous avez des questions sur ce sujet. Vous avez remarqué que votre plante, ou à l'extérieur ou à l'intérieur, manque de soleil. En tout cas, vous imaginez que c'est ça le problème ? Dites-le nous, appelez-nous, 3216.
Soit elle en manque, soit elle en a trop. Hein.
Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'elle peut en avoir trop.
Elle peut en avoir trop.
Le 3216, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, comme on évoque ce sujet. Voilà, on pourra vous écouter là-dessus. Patrick, qu'est-ce qui se passe quand une plante manque de lumière ?
Alors, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on a une modification bien caractéristique du port de la plante avec une orientation, c'est généralement une inclinaison des tiges vers la zone la plus lumineuse. Quand on est à la maison, ça se voit très très bien. Si vous avez écarté de trop une plante par rapport à la fenêtre, eh bien vous allez voir ces tiges qui vont s'orienter vers la fenêtre. On appelle ça le phototropisme, c'est-à-dire le mouvement lié à la lumière.
Mais c'est-à-dire que la plante va chercher rayon de soleil disponible.
Tout à fait. Moi, par exemple, au jardin, nous avons un grand buisson qui est sous un arbre. Eh bien, petit à petit, il a pris une forme penchée naturellement pour aller vers l'endroit où il perçoit la lumière. Vous avez aussi, en même temps, le développement de tiges grêles, qu'on appelle des tiges étiolées, qui se décolorent, la chlorophylle disparaît, et on a aussi souvent l'observation d'une croissance un peu plus modeste, avec des feuilles qui se rapetissent, on perd de la couleur, et puis comme on le disait précédemment, il n'y a pas de floraison, ou très peu.
Alors on sait qu'il y a des couleurs dans la lumière, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont importantes, ces couleurs, pour les plantes ?
Alors elles sont extrêmement importantes, d'autant que les rouges, par exemple, jouent un rôle majeur dans la photosynthèse. Et puis certaines couleurs du spectre lumineux jouent aussi un rôle dans la croissance. Donc par exemple, la photosynthèse, vous avez le bleu et le rouge qui sont vraiment les plus importantes. Pour la croissance, c'est la lumière rouge et le rouge qu'on appelle lointain. Alors tout ça, ça se mesure en nanomètres. La lumière rouge, c'est 660 nanomètres, le rouge lointain, 735, etc. Et ça favorise l'élongation des tiges et la floraison. Et le bleu, lui, qui est plutôt plus court, on va dire, c'est 435 nanomètres, c'est responsable du développement des feuilles et également dans la couleur foncée du feuillage. D'ailleurs, le bleu que l'on voit plus dans des zones un peu ombragées, c'est une couleur que l'on voit régulièrement dans des plantes qui vivent dans des lumières tamisées. Le rouge,
c'est plus des lumières intenses.
Voilà, plus au soleil. Voilà.
Alors justement, si une plante reçoit trop de lumière, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, généralement, vous avez un phénomène de brûlure. Vous connaissez avec votre érable du Japon qui est exposée au soleil, quand il y a des moments de canicule, les feuilles grillent, donc elles ont tout simplement ce qu'on appelle un coup de soleil dans notre langage habituel. D'une manière générale, une plante qui est trop exposée au soleil, elle va un peu perdre sa coloration chlorophyllienne. Elle va commencer à jaunir ou à devenir un petit peu vert pâle. Et donc ça, c'est un des phénomènes qu'il faut prendre en compte. Par exemple, les camélias ou les rhododendrons, qui sont plutôt des plantes d'ombre, oui. Quand vous les avez trop exposées au soleil, au lieu d'avoir ce vert très intense qu'ont leurs feuilles habituellement, eh bien, elles deviennent jaunes. Alors, pas comme une chlorose qui indique, disons, un manque de fer, où là, vous avez la nervure principale qui reste verte et le reste qui jaunit. Non, là, c'est une sorte de pâlissement, on va dire. Vous voyez, c'est, ouais. C'est un jaunissement léger, mais il vous dit, là, t'as trop de lumière.
Alors, on va peut-être pour terminer parler des plantes d'intérieur. C'est vrai que souvent, on a des problèmes de manque de lumière avec les plantes d'intérieur. Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors déjà, je voudrais dire que l'œil est un très très mauvais instrument pour évaluer l'intensité lumineuse, tout simplement parce que on a deux choses importantes. On a un iris, c'est-à-dire donc la possibilité que la pupille se dilate lorsqu'il y a un manque de lumière, et puis on a un cerveau. Et ce cerveau, lui, il est en permanence en train de contrebalancer les choses pour vous permettre de vous adapter dans un endroit que vous pensez, vous, lumineux, parce que vous voyez, oui. Mais qui ne reçoit pas de lumière. Bien donc sûr. En fait, si on veut savoir exactement combien de lumière il y a réellement, il y a des appareils qui s'appellent des luxmètres qu'il faut utiliser. Bon. Et dans la maison, je l'ai souvent dit, souvent à l'antenne, là, l'intensité lumineuse décroît très rapidement dans une pièce du fait de la réfraction. Quand vous regardez comment arrive un rayon solaire, d'abord sur une fenêtre dans une maison, il arrive de côté, donc il est déjà moins important que s'il arrivait d'en haut. En ce moment, le soleil est très haut. Si vous avez une serre, eh bien, ça arrive par le toit. Mmh. Quand vous êtes à la maison ou a fortiori dans un appartement, ça arrive que par les fenêtres. Donc déjà, c'est moins fort. Et en plus, il y a une diffraction, c'est-à-dire que quand il tape sur le carreau, enfin quand la lumière tape sur le carreau, eh bien, elle s'infléchit. Au lieu d'aller tout droit comme ça, elle peut pas le traverser, elle le traverse, oui, mais hop.
Et puis elle va perdre aussi en intensité, non ?
Et donc, mais à cause de ça, comme elle s'est infléchie, eh bien, plus vous allez à l'intérieur de la pièce, et moins l'intensité lumineuse est importante. Et ça, c'est la diminution, c'est avec le carré de la distance. C'est-à-dire qu'à 3 mètres de la fenêtre, vous avez 3 fois 3, donc c'est le carré de 3, 9 fois moins de lumière.
Donc ça va très vite.
Au bord. Donc mettez vos plantes le plus près possible de la fenêtre, mais en ce moment, comme on a beaucoup de lumière quand même, on va filtrer avec un voile translucide les rayons pour pas obtenir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une insolation.
Voilà. Passionnant, hein, la lumière. Hein. On voit que, bah voilà, sans lumière, on serait pas grand-chose. On...